Intelligence artificielle, la révolution. Épisode 3. Le juge est un algorithme.
C'est une première mondiale et c'est en Europe que cela se passe. D'ici à la fin de l'année, l'Estonie sera le premier pays au monde où la justice sera rendue par un programme d'intelligence artificielle. Mais soyons mesurés. Il s'agira uniquement de cas bien précis, comptables, des excès de vitesse, des indemnités de licenciement par exemple, et cela ne concernera que les litiges inférieurs à 7000 euros. Malgré ces balises, il y a un malaise. Lors de l'annonce de cette nouvelle, de nombreux magistrats, chez nous ou ailleurs, ont crié au scandale, avec un argument central: la justice doit rester humaine. Mais au fond, pourquoi l'humain serait-il plus performant pour juger un acte qu'une machine qui aurait emmagasiné toute la jurisprudence possible? Qui sera le plus impartial, de l'humain ou de la machine? Quelle est finalement la plus-value de l'humain et quelle est celle de l'ordinateur dans cette matière délicate qu'est la justice?
C'est une opportunité vraiment exceptionnelle en fait pour les juges.
Adrien Vandenbranden est avocat au barreau de Bruxelles. Il a écrit le livre « Les robots à l'assaut de la justice ».
Ils vont pouvoir se décharger de toute une partie du litige qui est complètement répétitif et les tribunaux de police doivent tous les jours traiter des amendes routières contestées, des retraits de permis, etc. Enfin, je veux dire, alors certainement, certains juges ils trouvent leur compte, mais c'est répétitif, c'est beaucoup d'erreurs peuvent se produire, alors que là, ils pourraient se dégager de tout cela et pourront se concentrer sur les cas les plus intéressants. Certes, les juges robots vont prendre une partie de leur tâche, ça c'est indéniable, mais ils vont récupérer toute une série d'autres beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus épanouissantes intellectuellement. Et surtout, ils vont pouvoir être beaucoup plus relax dans leur manière de travailler.
Vous l'entendez, Adrien Vandenbranden est très enthousiaste pour l'avenir. Pour lui, la justice est un domaine typiquement fait pour l'intelligence artificielle. Il y a d'un côté d'immenses bases de données, à savoir tous les jugements, toutes les décisions de justice rendues, et de l'autre, des avocats qui doivent chercher là-dedans des informations selon différents critères. Il s'agit de consulter la jurisprudence, un travail fastidieux. Alors pourquoi ne pas mettre entre les deux un bel algorithme qui viendrait déblayer tout cela ?
Les premières applications de l'intelligence artificielle appliquée à la justice, donc, c'est de faciliter en fait la recherche de l'information dont on a besoin pour argumenter un cas, parce que la justice fonctionne très fort par des précédents où les juges vont beaucoup s'inspirer de ce qui a été jugé avant pour pouvoir éclairer ou en tout cas rendre un jugement. Et donc ça, c'est un premier secteur d'application, c'est vraiment alimenter des moteurs de recherche pour que les professionnels du droit, et en particulier les avocats, puissent facilement retrouver des décisions similaires à leur cas et les utiliser comme arguments dans leur affaire. Et donc là, il y a déjà toute une série de moteurs de recherche qui existent. Doctrine.fr en France est sans doute le plus impressionnant puisqu'il dispose, en tout cas au niveau français, d'un peu plus de 7 millions de jugements, autant de jugements dans lesquels analyser pour pouvoir tirer des enseignements, des moyennes, faire la synthèse de toute une série de décisions.
Ici, c'est quoi comme service ici ?
C'est tout l'étage engineering. On va avoir l'équipe qui s'occupe du moteur de recherche, l'équipe qui s'occupe de l'infrastructure, de la veille juridique personnalisée qui est faite en fonction de la recherche de l'utilisateur.
Je m'appelle Grégoire Thomas, je suis le directeur marketing de Doctrine.fr. Ce qui a été le point de départ de Doctrine, c'est un constat assez simple. C'est une enquête IFOP qui est sortie sur le sujet qui dit que 88% des avocats en France ont des difficultés à avoir accès à l'information dont ils ont besoin pour conseiller et défendre leurs clients. Donc c'est un véritable enjeu. Et c'est là toute l'importance de l'intelligence artificielle dans le cas de la justice. C'est au sein de la masse d'informations qui existent, comment est-ce que je vais réussir à trouver l'aiguille dans la botte de foin qui va permettre d'obtenir gain de cause pour mon client.
Est-ce que vous avez une idée en tête ?
Mettons France Télécom pour voir.
Et là, vous allez avoir tous les résultats de recherche concernant les cas de harcèlement moral à France Télécom.
Doctrine est donc une sorte de moteur de recherche ultra perfectionné et personnalisable.
Si on part du principe que toute l'information est accessible, il faut savoir que c'est une quantité d'information qui est tellement colossale que le cerveau humain n'est pas capable de la traiter, n'est pas capable de dire « tiens, cette information-là va être pertinente par rapport au dossier que je suis en train de traiter ». La rendre intelligible, c'est déjà comprendre ce que sont les liens sous-jacents entre différentes informations. Dans le cas de la justice, ça va être, et de doctrine, ça va être le lien entre un texte de loi et les décisions de justice qui vont le citer. Ça va être aussi être capable de comprendre, au sein d'une décision de justice, qui sont les entreprises qui sont concernées, les avocats qui les représentent, ce que sont les motifs de cette décision-là, et à la fois créer du lien pour avoir l'historique du contentieux d'une entreprise, par exemple, mais aussi toutes les décisions de justice qui seraient des décisions similaires à celles qui est consultée par le professionnel du droit.
Bref, vous l'aurez compris, le juriste, l'avocat n'obtient pas une information, mais tout un faisceau d'informations pertinentes et reliées entre elles autour des mots-clés de recherche qu'il a encodés. Et qui s'occupe de trouver tous ces liens ? C'est évidemment l'algorithme de doctrine, le méga-cerveau de la boîte.
Ce qu'on valorise, c'est pas l'information à proprement parler, c'est la capacité à restituer la bonne information. Donc notre secret professionnel, notre avantage concurrentiel, c'est cet algorithme. C'est là-dedans qu'on investit massivement pour permettre d'apporter des réponses toujours plus précises aux questions que nos clients se posent.
Et ce qu'a constaté Grégoire Thomas, c'est que s'il y a bien 80% d'avocats parmi ses clients, il y a aussi de plus en plus de directions juridiques d'entreprises. Ce sont donc les équipes de juristes au sein des entreprises.
On leur permet d'avoir accès à une information qui correspond aussi à leurs enjeux business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les directions juridiques ont aussi besoin de se rapprocher de leur business, de pouvoir prévenir l'aléa juridique, et donc pour ça d'avoir accès à toute l'information qui existe sur un sujet qui va les impacter. Et donc d'avoir une veille juridique beaucoup plus performante que ce qu'ils avaient jusque-là, pour pouvoir ensuite, avec leur direction, prendre des décisions qui sont des décisions stratégiques et positives pour l'entreprise.
Retenez un seul mot de ce passage, prévenir. Prévenir l'aléa juridique. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'essentiel. Quand on a toutes les données entre les mains, quand on sait comment des cas similaires ont tourné par le passé, on peut prédire, ou en tout cas sentir le vent tourner sur certaines décisions. Et nous en arrivons à un concept central lorsque l'intelligence artificielle se met au service de la justice. C'est en quelque sorte le stade suivant, après celui du moteur de recherche, le stade de la justice prédictive. Meurtre. Minority Report, Steven Spielberg, 2002.
Bon Jack, qu'est-ce qu'on a ?
Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixait l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain, nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108.
Nous retrouvons Adrien Van Den Branden, avocat au barreau de Bruxelles et auteur du livre « Les robots à l'assaut de la justice ».
En fait, c'est de pouvoir donner une estimation très très fine des chances de succès d'un cas devant la justice, mais même plus loin qu'un pourcentage de victoire ou de défaite, également donner les conditions de ce jugement. Vous alimentez donc vos données dans ce logiciel. Ce logiciel alors analyse vos données, les compare à tous les jugements qui ont été rendus dans vos cas similaires, applique les pondérations, les critères que le concepteur de l'algorithme lui a indiqués, et puis alors rend en fait des probabilités de votre cas et va pouvoir typiquement vous dire, bah, écoutez, vous avez 80% de chance de récupérer 10 000 euros en indemnité licenciement si ces conditions-là sont remplies.
Prédire l'issue d'un procès, c'est le deuxième stade, après celui de la recherche d'informations. Et cela nous amène au troisième stade, le stade ultime, celui où c'est la machine qui tranche le litige, comme l'explique Adrien Van Den Branden.
C'est ce qu'on appelle alors la robotisation de la justice. Et là, c'est vraiment le stade ultime d'avoir une résolution totalement automatisée des litiges. Mais finalement, quand on y réfléchit, c'est techniquement, en tout cas, ce n'est pas plus compliqué que de la justice prédictive. Je m'explique. Dans la justice prédictive, en fait, le robot donne déjà une prédiction ou donne une ébauche de jugement. Et alors, l'avocat va pouvoir dire, voilà, vous avez autant de chances, mais le juge, s'il se prend cette même prédiction ou cette probabilité, peut tout à fait décider de l'appliquer ou alors de la challenger. C'est juste que dans
la robotisation de la justice,
et ça, évidemment, toute la nuance, on va enlever le filtre supplémentaire du juge et simplement laisser l'algorithme prendre les décisions lui-même.
Bonne nouvelle, se diront certains. Rien de tel qu'une machine pour trancher. Quoi de plus impartial et fiable ? En 2016, une enquête édifiante sort aux États-Unis. Elle concerne l'algorithme Compass Pretrial, utilisé par de nombreux juges. Ce logiciel, développé par la société Northpoint, calcule le taux probable de récidive d'un condamné. Et en fait, il est raciste. Compass attribue en effet un score élevé ou moyen de récidive probable, deux fois plus souvent pour les condamnés noirs que pour les condamnés blancs.
L'algorithme, on a pu le démontrer, ne faisait que perpétuer des biais raciaux qui étaient profondément ancrés dans la justice pénale américaine, où ce sont majoritairement évidemment des juges blancs qui rendent ces décisions et où ils avaient plutôt tendance à, en cas de doute, juger qu'un individu noir était plus dangereux qu'un individu blanc.
L'algorithme doit être nourri de données et de critères. Si ces données et critères présentent un biais, l'algorithme va les reproduire et pourra même les accentuer.
Ça pose évidemment énormément de questions. Là où il faut faire évidemment beaucoup attention lorsqu'on manipule ces algorithmes. Mais, et je vais en terminer par là, c'est assez intéressant puisque l'algorithme a révélé cette tendance profondément ancrée dans la culture judiciaire américaine. Si l'algorithme ne l'avait pas révélé, ben, on aurait continué comme ça. Et en fait, ce biais-là était déjà profondément ancré.
Donc ça a révélé le biais de la justice humaine, en fait.
Exactement. C'est un argument souvent utilisé à l'encontre des algorithmes en disant bah, « Regardez, vous voyez bien, en utilisant des algorithmes, on perpétue des biais raciaux, mais en ne les utilisant pas, on les perpétue aussi. »
C'est une grande leçon à retenir de cet exemple. La technologie n'est jamais neutre. Il faudra donc superviser la fabrication de ces algorithmes, baliser leur conception avec des dispositions légales et les rendre transparents et publics. Nous en venons à une question centrale. Pourquoi, lorsqu'on parle d'un juge informatisé, a-t-on une réaction quasi épidermique de rejet ? Pourquoi la justice nous semble intuitivement devoir rester entre les mains des humains, alors qu'on vient de le démontrer, moyennant un cadre strict, il y a des intérêts évidents à utiliser l'intelligence artificielle dans ce domaine ? Eh bien parce que la justice ne se limite pas à des amendes pour excès de vitesse ou à des calculs d'indemnité de licenciement. Il y a des procès où l'on parle de liberté d'expression, de crimes graves ou de garde d'enfants après un divorce, des domaines qui demandent de la nuance, de l'empathie, de l'écoute, de l'humanité en fait.
L'idée, c'est pas de robotiser pour robotiser, ça n'a aucun sens. Il faut robotiser ou automatiser les litiges si cela permet de rendre une décision plus efficiente, c'est-à-dire une décision qui optimise le rapport entre la qualité de la décision, la vitesse et son coût, par rapport à ce qui existe déjà, c'est-à-dire une décision rendue par un juge.
Pour Adrien Van den Branden, chaque cas doit être examiné à la lumière de ces critères. Et si dans la qualité d'une décision, le critère humain est nécessaire, il faut bien entendu laisser ce cas à un juge humain. L'avenir, ce sera donc peut-être cette complémentarité du juge et de la machine dans les tribunaux. Une complémentarité qui devra être pensée, baliser et être éthiquement irréprochable.